With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute!
Aujourd'hui, je dirais que je me sens... Assez excitée par face à un renouveau un peu, parce que du coup c'est ma première journée aujourd'hui.
Je me sens bien et un peu perdu en même temps, parce que j'habite à Rio et que je suis revenu ici pour du travail, et du coup je suis à la fois chez moi et pas vraiment chez moi, donc je suis dans un entre-deux.
Je me sens bien. Je sais pas.
Je me sens, ça va, comme tout le monde, voilà. Et des fois ça va, des fois ça va pas.
Aujourd'hui, je ressens de la joie. Et j'ai fait des choses sans réfléchir, juste parce que j'en ressentais l'envie ou le besoin. Et donc du coup, c'est assez libérateur.
J'ai passé une bonne journée, une bonne soirée, et là je me sens apaisée.
Est-ce que vous sauriez le dire, ce que vous ressentez, vous? Vous avez le mot exact pour décrire ce qui vous traverse? Ce qui vous travaille depuis que votre réveil a sonné ce matin et que vous êtes levé un peu maussade ou tout excité? Vous sauriez dire ce que vous ressentez là tout de suite en écoutant ma voix? De la surprise? De la curiosité? De la joie d'avoir enfin trouvé un moment tranquille pour écouter un podcast? Peut-être de l'appréhension en découvrant cette nouvelle émission dont vous ne savez encore rien du tout? On dit que c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Peut-être parce que on sait pas toujours bien ce qu'on ressent, ni pourquoi. Parce qu'on est souvent un peu perdu dans le fouillis de notre jungle intérieure. C'est justement ça que j'ai envie d'explorer dans ce podcast. Je m'appelle Adélie Pejman-Pontet, bienvenue dans Émotion. Je vais essayer de vous décrire ce que je ressens là, moi, tout de suite. Si je veux être précise, je vais aller chercher dans ce que les universitaires appellent la granularité de mes émotions. C'est-à-dire dans toutes les nuances de ce que je ressens à cet instant précis. Je peux vous dire, par exemple, que je suis en studio et que derrière la vitre, il y a Charlotte et Mélissa, mes chefs, Bernard et Nicolas, les ingé-sons, et Alice, l'attachée de production. Ils me regardent tous avec des grands yeux. J'ai un peu du mal à respirer, j'ai le cœur qui bat super vite. Et j'arrête pas de rire parce que quand je suis gênée, je ris. C'est pas un réflexe hyper pratique, je vous assure. Je suis la personne qui rit aux enterrements. À cet instant, qu'est-ce que je ressens, moi? De la peur, du stress, de l'angoisse. Depuis septembre, il y a ma kiné qui essaye désespérément de me masser le diaphragme. C'est le muscle sous votre cage thoracique. Et j'ai l'impression d'avoir un caillou à la place de l'estomac. En fait... j'ai l'impression que présenter ce podcast, c'est comme si je m'avançais nue sur une scène devant un public prêt à me jeter des clous. Devoir prendre la parole devant plein d'inconnus qui vont pouvoir critiquer et commenter. J'ai peur de rater, j'ai peur de trébucher. En fait, j'ai le trac. comme Franck il y a 30 ans. Je vous parle de Franck parce que sa fille Jeanne m'a raconté son histoire il n'y a pas longtemps. Comme moi, il rêvait de faire son métier depuis tout petit. Lui, c'était avocat. Il avait brillamment réussi l'examen du barreau dans sa ville, Nantes, et il avait commencé à travailler assez jeune. Franck avait été recruté par un avocat connu dans toute la région, et cet avocat attendait beaucoup de lui. Et puis, la pression était d'autant plus grande que Franck se lançait en droit pénal, c'est-à-dire qu'il se retrouvait à défendre des délinquants, des criminels, des gens qui risquent la prison. Et le trac a failli briser sa carrière. À 23 ans, il se retrouve à défendre un homme qui est détenu pour trafic de drogue.
Il est dans une situation qui est la pire en droit pénal, c'est-à-dire s'il est déclaré coupable, il est considéré en récidive légale.
Évidemment, quand on récidive, on risque gros. Et en plus, le client de Franck conteste ce qui lui est reproché. Il clame son innocence. Quand il arrive au tribunal, Franck a hyper peur.
C'est un ancien palais de justice, Troisième République, une salle avec du parquet, une barre en bois, des bancs de la défense en bois, un box avec des croisillons. Et je me souviens très bien que cette affaire va être jugée en premier et que l'on va être dans une salle qui va être comble.
La salle est pleine, c'est le printemps et il fait très chaud dans le tribunal. Franck transpire sous sa robe noire. Il y a le public qui voit en lui quelqu'un de compétent. Quelqu'un qui connaît son dossier sur le bout des doigts, dont on attend la prestation parce qu'elle va sauver son client. Et puis il y a ses nouveaux collègues aussi. Et les avocats des autres cabinets qui l'attendent au tournant.
Et le regard des confrères, surtout dans les premières années, est toujours important. J'étais repéré déjà, ça faisait un an et demi à peu près que j'étais avocat. On savait chez qui j'étais avocat. Cet avocat, mon mentor, qui était réputé pour former des gens aussi rigoureux que lui l'était, ça participait indéniablement de mon stress. Le regard de ses pairs est plus difficile à supporter que le regard d'un public.
Mais dès le début de l'audience, les choses prennent un mauvais tour entre le client de Franck et le juge. Le dossier est à charge et le client continue de se dire innocent.
Quand l'audience commence, il commence à se passer ce que je crains, c'est-à-dire une confrontation entre le magistrat qui préside et mon client sur le thème. Je me demande si, monsieur, vous êtes tout à fait conscient des éléments qui existent dans le dossier. Je me demande si vos contestations ne sont pas le signe de votre volonté de se moquer du tribunal.
Après le juge, c'est le procureur qui prend la parole. Il annonce la peine à laquelle il voudrait voir le client de Franck condamné. 5 ans de prison. Ferme.
Et le procureur se lève. Il expose tout le mal qu'il pense de mon client et toute la certitude qu'il a qu'il faut le condamner à une très forte peine en réponse à la fois à ce qu'il a fait selon lui et à son attitude dans le dossier et à l'audience.
Dans le tribunal, il y a 3 parties. Le procureur qui demande la peine, l'avocat qui défend son client et le juge qui vient trouver le bon équilibre entre les deux. Au moment où Franck s'apprête à prendre la parole, il a le sentiment que tout le monde est contre lui.
Je me demande si je vais arriver à être suffisamment éloquent pour attirer les juges dans une autre direction qui me semble vraiment, sincèrement, qui me semble devoir être prise, qu'ils pensent ou non que mon client soit coupable. Je me demande si c'est possible que je sois à la hauteur.
Franck se lève, s'avance à la barre devant les 3 juges et il se lance dans sa plaidoirie.
Alors que je prononce une phrase qui doit se terminer par le nom de mon client, je bloque. Je suis incapable de prononcer le nom de mon client. J'ai oublié, là, en train de plaider, en pleine audience, devant tous ces gens qui sont derrière moi pour le public, à côté de ces confrères qui sont à côté de moi. J'ai oublié le nom de mon client. Je suis trempé de sueur. Je baigne dans une chaleur qui est terrible. Il me manque 3 mots. le prénom et le nom de mon client précédé de monsieur, c'est ce silence, c'est le silence de ma voix, c'est le silence de mon esprit, c'est le silence de cette salle d'audience. Les murs me renvoient le silence qui continue, qui dure, et auquel je ne vois aucune fin et je n'ai aucune ressource. Les juges voient que je ne finis pas ma phrase, que ma phrase a la vocation à être achevée par le nom de l'homme là, dont on a déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois depuis que l'audience a commencé. Et alors, un des membres du tribunal, je me souviens très bien, c'était l'assesseur de droite, va se pencher vers moi alors que je suis à 4-5 mètres de lui. Il est sur une estrade, moi je suis en bas des marches. Il va se pencher vers moi et il va me souffler le nom de mon client. Il va le souffler fort pour que je l'entende en pleine salle d'audience.
Il le souffle pour aider Franck, bien sûr. Mais c'est pas comme ça que Franck le prend.
Je vais l'entendre comme justement une gifle, comme la preuve de ma terrible incompétence.
Le client de Franck a bien écopé de la peine requise par le parquet, 5 ans ferme. Mais... après tout, c'est pas la seule affaire difficile que Franck a eue dans sa vie, ni la seule qu'il a perdue. Pourquoi ce souvenir reste si vivement fiché dans sa mémoire? Pourquoi 30 ans après, il se souvient encore de la chaleur de la salle d'audience et de la sueur qui lui coule le long du dos? Qu'est-ce qui, dans ce trac et dans le regard que les autres ont posé sur lui ce jour-là, avait tellement d'importance? Alors j'ai posé la question à une psychiatre, Christine Barois.
En fait, le trac vient du jugement d'autrui. C'est-à-dire que j'anticipe de manière négative quelque chose qui... c'est vraiment une hypothèse que je fais, et c'est ça qui me met déjà dans l'anxiété sociale, dans l'anxiété de représentation.
Christine Barois explique que c'est l'instinct grégaire qu'on a tous en nous, c'est-à-dire l'instinct qui nous pousse à vivre en groupe, en société, qui fait qu'on a peur de l'avis des autres. Car si leur avis est négatif, ils pourraient nous rejeter, et seul, personne ne survit.
Qu'est-ce que ça dit de moi si je ne reçois pas l'approbation des autres? Ça veut dire que je ne suis pas suffisant pour être dans ce groupe, ça veut dire que je vais être regretté de ce groupe, ça veut dire que je vais être exclu, et ça veut dire que je suis abandonné. Et les angoisses d'abandon, c'est un peu comme des angoisses de mort, c'est-à-dire que je meurs. J'y arrive pas, je vais mourir.
Donc si on se trouve tout seul, on meurt?
Exactement, quelqu'un de tout seul meurt.
Le trac, c'est donc anticiper d'être rejeté par le groupe dont on fait partie. Ou dont on veut faire partie. Et c'est évident, en fait. C'est ce qui donnait le trac à Franck devant ses confrères il y a 30 ans. Et c'est ce qui m'obsède, moi, depuis des semaines. C'est ce que les gens vont penser de l'émission, de moi, de ma voix. Enfin, vous voyez l'enjeu, quoi. J'ai pas envie de décevoir ni vous, ni mes chefs, ni moi. Et franchement, c'est pas une peur absurde. Les autres peuvent décider de manière formelle ou non de nous rejeter. Par exemple, je pourrais rater cette émission, vous pourriez ne plus jamais écouter ce podcast et mettre de mauvais commentaires sur iTunes, s'il vous plaît, le faites pas. Ces autres, dont on craint le regard, quand on a le trac, ils ont un vrai pouvoir sur nous. S'ils nous rejettent, ce sont nos projets d'avenir, l'identité qu'on s'était construite ou qu'on s'était rêvée, les liens avec les gens qui nous entourent qui peuvent s'écrouler. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Aloïs.
C'est impossible que vous me viriez, enfin, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que c'est possible, ce truc-là? C'est pas possible.
Pour comprendre l'histoire d'Aloïs, il faut revenir 10 ans en arrière, à son année de seconde, option art plastique, dans un lycée d'Angoulême.
Dans cette classe, je rencontre donc pas mal de gens, notamment 3 personnes qui vont devenir très importantes dans ma vie ensuite.
Vous voyez ces bandes d'ados inséparables? Une clique qui a l'air hyper soudée? Ça, c'est le genre de bande que moi, j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais ado. Et bah, Aloïs et ses potes...
Rupert, Théo et François.
C'était ça.
Alors, ces 3 personnes vont devenir importantes parce qu'en fait, elles partagent le même rêve que moi. On partage tous les 4 le même rêve. Et notamment pour révolutionner le monde de la BD, rien que ça. Donc, on rigolait avec ça, mais on était quand même un petit peu sérieux. Et donc, on travaillait, on dessinait, on s'amusait tout le temps avec le dessin. Bref, on était tout le temps fourrés ensemble et on dessinait tout le temps.
Au moment du bac, ils décident tous les 4 de passer à la même école, les Beaux-Arts d'Angoulême, qui est spécialisée dans la BD.
Et comme par miracle, on a tous les 4 été reçus donc aux Beaux-Arts après le concours.
Sauf que voilà, quand on est aux Beaux-Arts d'Angoulême, il faut passer 2 oraux, un à chaque semestre. On se retrouve devant 4 professeurs et il faut défendre les projets artistiques qu'on a réalisés pendant le semestre. C'est noté sur 10, et si vous avez moins de 5 à l'un des 2 oraux, et ben vous êtes viré. C'est pas la moyenne des 2 oraux qui compte, hein. C'est vraiment la note de chaque oral. Et Aloïs, Eh ben, il est pas terrible à l'oral.
Faut savoir que la classe, on est 35-40 et que moi, je suis toujours dans les 5 derniers. Je suis quelqu'un de très angoissé. Dès que je dois passer à l'oral devant des personnes, eh ben, je suis vraiment pas à l'aise. L'anticipation, le cœur qui bat, le fait de réfléchir 1000 fois la même phrase pour commencer, je suis vraiment mauvais, quoi.
Le jour de l'oral, Aloïs s'installe. Il est dans une petite salle d'environ 20 mètres carrés. C'est petit, rassurant et plutôt intimiste.
Les profs arrivent vers moi. Je commence à parler. Je commence à sortir 2-3 petites blagues. Je commence à parler de mes projets un peu farfelus, un petit peu tirés par les cheveux, mais en même temps assez amusants. Et les profs sont réceptifs. Ils rigolent. Et quand je commence à faire rire les jurys, eh ben, il y a vraiment une espèce de confiance, une espèce de une situation qui me met à l'aise. Et du coup, ben, j'enchaîne, je continue, je les fais rire, ils passent vraiment un bon moment. Et ce qui fait que ben, ils me disent « Merci pour la prestation, t'inquiète pas, et puis à plus tard. »
Les résultats tombent le soir même, et bingo, Aloïs a 9 sur 10.
Ah, le truc de fou, quoi.
Il est premier ex aequo de sa promo.
Ouais, je plane. Je suis exactement à l'endroit où je dois être. C'était irréel pour moi.
À la fin du deuxième semestre, il y a le deuxième oral à passer.
Sauf que là, c'est différent du premier bilan. C'est que mes proches, mes potes, etc. me disent « Toi, de toute façon, ça se passera bien. » Arrivé au deuxième bilan, je me retrouve pas dans l'arrière-salle, mais bien dans la salle principale. Elle fait plus de 100 mètres carrés.
Aucun rapport avec la salle du premier oral, hein, qui était petite et intimiste. La deuxième, elle est beaucoup plus impressionnante.
Et ce qui fait qu'il y a plus de monde.
Les autres élèves étaient tellement impressionnés par la note d'Aloïs au premier semestre qu'il y en a plein qui sont venus le voir.
Donc j'installe ma présentation en U pour que les profs puissent se promener, voir tous mes projets du semestre. Et voilà, tout simplement en U, quoi. Et donc les profs arrivent. Et là, en fait, j'avais prévu des blagues. J'avais prévu pareil, en fait, que le premier semestre. J'étais dans la même situation. Sauf que les blagues que je commence à dire, eh ben, il n'y a pas de rire. Et du coup, je commence à perdre le contrôle. Je commence à devenir tout rouge. Je commence à faire des blancs. Je perds mes moyens. J'arrive plus à articuler, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à dire ce que je voulais. Et dans ma tête, ça fait non, 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 c'est en train d'arriver, il faut pas que ça arrive, c'est pas bon, c'est pas ça, faut que je réussisse. J'arrive plus à présenter mes travaux, c'est pas en train de réussir, ça marche pas, je suis en. C'est pas en train de marcher, ça marche pas, quoi. Je regarde les profs, je relance des blagues, j'essaye, ça les fait toujours pas rire, ils me regardent, ils fuient mon regard, ils se regardent entre eux, ils regardent tout le monde, enfin, tout se croise devant moi et je suis genre statique. Et le pire dans cette situation, c'est qu'au moment où je commence à galérer, il y a d'autres personnes, d'autres camarades qui montent parce qu'ils ont entendu dire que ça a commencé pour venir voir ce qui se passe. Même s'ils ne sont pas nombreux, enfin, je sais pas, ils sont 3, 4, ils sont peut-être 6, ils sont peut-être 10, enfin, j'en sais rien en fait.
Aloïs perd tellement ses moyens qu'il en oublie de présenter son projet principal, le truc qui avait plu à tous ses profs et aux autres élèves au cours du semestre. Dans le public, il y a un de ses trois amis, Théo. Il le soutient du regard, lui dit oui de la tête, comme pour dire « t'inquiète, ça va passer, mec ».
Mais vous savez, genre le oui de la tête, mais avec les sourcils tristes.
À la fin de l'oral, Théo essaye de réconforter Aloïs.
Et il y a du coup Théo qui me dit « t'inquiète pas, ça va passer, de toute façon t'as eu 9 sur 10, donc là forcément tu vas avoir, je sais pas, peut-être tu vas avoir 6, tu vois, ou 5, 5 et demi, j'en sais rien. Mais ça va passer, ils vont pas te virer, c'est impossible qu'ils te virent. » Ok.
Au moment où les résultats vont tomber, on sait déjà que 3 personnes vont se faire virer.
Mais il y en avait une quatrième. Et forcément, vous en doutez, bah, la quatrième, c'était moi.
Aloïs a eu 3 au deuxième oral.
Et du coup, je me rappelle, après, on s'est retrouvés avec Rupert et Théo dans le coin, là, et on s'était mis dans un spot qu'on avait. On était là, mais tellement triste. Il m'en voulait tellement. Et en même temps, il y avait tout qui tombait. En fait, le fait que je parte... Ben, il m'en voulait terriblement parce qu'en fait, j'avais pas réussi à rester. Et du coup, il y a toute notre fusion, enfin, tout ce truc-là qui disparaissait avec moi, en fait.
Ce qui est marrant, c'est que d'après mes recherches, la plupart du temps, le track est censé justement éviter ça, éviter qu'on trébuche sur scène. On a peur que ça arrive, donc on panique tranquille derrière le rideau, en l'absence des autres, de ceux qu'on a peur de perdre ou de décevoir. En fait, ce qui caractérise le trac, c'est qu'il intervient normalement avant de monter sur scène, avant de faire face au danger.
In absentia.
In absentia, c'est le mot savant qu'emploie Patrick Thor pour dire qu'on a peur d'un danger qui n'est pas présent devant nous. Patrick Thor, il est philosophe et théoricien des sciences. C'est le directeur de l'Institut Charles Darwin International. Il a consacré toute sa vie à Darwin et il est en train de publier son œuvre intégrale en 35 volumes. Pourquoi je me suis retrouvée à discuter avec un expert de Darwin ? Bah, j'ai tout simplement tapé « Pourquoi on a le trac ?» dans Google. Et je suis tombée sur tout un tas de vidéos et tout un tas d'articles qui me disaient que Darwin avait théorisé le trac. Donc je me suis rendue chez Patrick Thor, dans le Tarn, et la première chose qu'il m'a dite, c'est qu'Internet avait faux et que Darwin n'avait jamais parlé de trac. Notre conversation aurait donc pu s'arrêter là, au bout de 30 secondes d'interview, après 800 km de trajet. Sauf qu'en fait, Patrick Thor avait aussi d'autres choses à me dire. Notamment que le trac n'existe pas juste pour nous faire souffrir. Il a une fonction.
Il est utile parce qu'il permet de se défaire de la peur en l'éprouvant in absentia, c'est-à-dire en dehors du vrai danger, en dehors de l'épreuve, avant l'épreuve. Mais c'est l'expérimentation dans l'imaginaire et en même temps le vécu sensible et sans danger objectif d'une situation dont on veut se délivrer dans la vie réelle. Et le trac a cette fonction.
Le trac, c'est comme un vaccin, en fait. C'est cette petite dose d'angoisse d'abandon, de mort sociale qui vous immunise, théoriquement, pour surmonter l'épreuve devant vous au moment où vous n'avez plus d'échappatoire. Vous êtes en coulisses. De l'autre côté du rideau, il y a un public ou un jury qui vous attend. Et à ce stade, ou vous montez sur scène et vous réussissez, bravo, ou bah, vous encourez la mort sociale. Parce que vous ratiez sur scène ou que vous ne montiez pas sur scène, dans les deux cas, vous aurez échoué au regard des autres et vous emmènerez ces regards avec vous. Et si vous en avez quelque chose à faire de ce jugement des autres, ne culpabilisez pas, c'est le propre de notre condition humaine. Seuls les gens ont le trac. C'est pas comme la peur. Un hamster a peur, un humain, il a peur, et il a le trac. Parce que le trac implique la conscience des valeurs et la capacité à se projeter dans le futur. Par exemple, pour Aloïs, c'est se demander juste avant son oral s'il va bien réussir les Beaux-Arts et devenir l'auteur de BD qu'il a toujours rêvé d'être.
Il inclut la conscience du jugement des autres, c'est-à-dire qu'il oppose l'estime et le mépris. Il est intimement lié à la capacité de se représenter l'avenir, là je reprends les termes de Darwin, et à l'intériorisation de ce que Darwin précisément nomme l'importance accordée à l'opinion d'autrui.
En fait, chez Darwin, selon Patrick Thor, c'est une question d'éthique qui se joue là. Les humains seraient constamment traversés par deux formes de désirs contradictoires. Le premier, c'est le désir immédiat qui nous pousse à vouloir acquérir quelque chose ou à en jouir. Le deuxième désir, c'est un désir à long terme. C'est celui qui nous permet justement de vivre en société les uns avec les autres. Et ce désir-là, qui est plus durable, c'est d'obtenir l'approbation d'autrui.
Et l'éthique de la civilisation chez Darwin, c'est quelque chose qui repose sur l'exigence que l'on a d'être en tout point conforme à l'attente d'autrui. C'est-à-dire que le prix que l'on accorde à l'opinion que l'autre a de nous-mêmes est ce qui structure, en fait, au niveau des individus, la cohérence de la civilisation.
Le trac, c'est la réponse à ce désir profond d'appartenir à la société. Est-ce que pour autant, ça veut dire que tous les humains ont le trac de la même manière et avec la même intensité ? Non. Un professeur d'art oratoire qui s'appelle Stéphane André a une anecdote rigolote sur ce sujet d'ailleurs.
On pense généralement que l'art oratoire est un don.
Stéphane André anime régulièrement des conférences et des ateliers pour aider les gens à être plus à l'aise à l'oral. Dans chacune de ses conférences, il demande à quelqu'un de se porter volontaire pour venir sur scène et parler pendant 2 ou 3 minutes du sujet qu'il veut. Je sais pas si, comme moi, vous êtes déjà crispé en entendant ça, mais 2 ou 3 minutes pour parler sans avoir rien préparé devant des inconnus dans un amphithéâtre, moi, je trouve ça terrifiant.
Alors, quand on demande, et quand on demande encore aujourd'hui, dans un amphithéâtre d'Européens, de Français en particulier, est-ce que quelqu'un veut bien venir faire un exposé alors qu'il y a 200 personnes dans l'amphithéâtre, je dirais presque que chacun regarde dans son cartable en se disant « j'ai un truc à faire dans mon cartable et tout », un peu comme quand on était à l'école et qu'on avait 12 ans ou 13 ans et que le prof disait « quelqu'un va venir au tableau » et à ce moment-là, tout le monde regardait dans son cartable, regardait dans ses notes. Ben, j'ai pratiquement le même comportement adulte de gens de 40, 50 ou 60 ans dans un amphithéâtre. Si vous demandez que l'un d'entre eux veuille bien venir à la tribune faire un exposé. Et les gens n'ont pas envie de venir. C'est pourquoi, en général, maintenant, je désigne les gens que je fais monter sur scène. C'est plus simple.
Donc la grande majorité du temps, Stéphane André donne cette conférence devant un public français. Mais il y a quelques années, il se retrouve à faire la même conférence en anglais devant des élèves nigérians.
Au moment où je leur ai demandé que l'un d'entre eux veuille bien descendre les degrés de l'amphithéâtre pour venir s'asseoir à la tribune et faire un petit exposé sur un thème de son choix, quand j'ai eu fini de parler, quasiment la totalité, il faut dire que je parlais depuis pratiquement une heure, la totalité de l'amphi s'est levée et tous ces gens jouaient des coups d'entre eux à qui arriverait le premier en bas à la tribune pour faire son exposé. Et pour moi, ça m'a fait un choc incroyable parce que jamais je n'avais eu une telle envie de parler en public devant un amphi de français. Et j'ai compris que finalement le trac était d'origine culturelle, donc ça veut dire pas personnel.
Est-ce qu'il y a des pays où on serait particulièrement traqueux ? Ou est-ce qu'il y a des gens devant qui il est particulièrement difficile de parler ? Peut-être qu'on n'est pas tous égaux devant le trac, mais peut-être aussi que certains publics ont un regard plus dur que d'autres. Et si le problème, en fait, c'était pas moi, c'était vous ? Et si vous étiez particulièrement attentif à la moindre erreur, prêt à rire, à juger, à vous moquer ? Je dis vous, mais je pense pas vraiment à vous tous qui m'écoutez. Je pense à ceux qui, comme moi, sont français. Et si en France, on était particulièrement dur face à la parole de l'autre ? En France, le silence est d'or, le rompre, c'est terrifiant. Et c'est Roberte Langlois, qui est à la fois institutrice en maternelle et chercheuse en sciences de l'éducation, qui m'a expliqué pourquoi. Elle a notamment écrit une thèse sur la place de l'oralité dans l'école française. Et elle m'a reçue chez elle, à Rouen.
Petit café, on démarrait ?
Oui, je veux bien, s'il vous plaît.
Je pense qu'on va se mettre ici, non ?
Quand je suis arrivée dans son salon, il y avait sur la table un exemplaire du journal Le Monde.
Moi, je vous ai... Je ne sais pas si ça vous intéresse, justement, mais tout m'intéresse.
Roberte me tend le journal qui est daté du 3 septembre, la veille de mon arrivée, et qui contient une interview du comédien Jacques Weber. Dedans, Weber raconte justement qu'il a été traumatisé par son éducation.
Et alors, le dimanche, le lundi 3 septembre, je lis, je reçois Le Monde, là, et je vois la page de Jacques Weber, il y a toujours une page rencontre avec un comédien, enfin un homme public, mm-hmm. pour un petit peu savoir qui il est et pourquoi il en est arrivé là. Alors Jacques Weber raconte, je suis marqué au fer rouge par l'éducation nationale. Donc, il raconte qu'il était un cancre dans une famille où il fallait être intelligent et le mépris de son père. Alors je l'ai encadré parce que ça illustre tout à fait.
Le journaliste dit à Weber, vous dites avoir été un cancre. Est-ce que vous n'aimiez pas l'école ou l'école n'était pas faite pour vous ? Weber répond, c'était réciproque. Je n'aimais pas l'autorité de l'école et sa foncière injustice. J'avais des difficultés car j'étais très introvertie. J'écrivais mal parce que j'étais hyper nerveux et très émotif. On me disait que j'étais nul, crétin. Mon père en rajoutait une couche en me lançant « Les petits imbéciles n'ont pas la parole à table. »
Les petits imbéciles n'ont pas la parole à table. Le droit à la parole. C'est très français, ça, comme expression. Ne pas avoir droit à la parole. Parler comme un livre. Quand on sait, on se tait. Voilà, toutes ces expressions qui donnent la nature de la parole au niveau de l'école, des enfants, même au statut familial, finalement.
Ce qu'elle m'explique, c'est que l'éducation française laisse vraiment peu de place à l'oral. Quand on a le droit de parler, c'est pour lire, en fait. Lire à voix haute un texte écrit, réciter une poésie écrite. Mais les élèves ont peu la liberté de s'exprimer, de donner leur point de vue. Et en fait, c'est pas un hasard. Laissez-moi vous présenter Ferdinand Buisson et son dictionnaire de l'éducation publié en 1882. Sur sa page Wikipédia, Ferdinand a l'air d'un monsieur typique de la Troisième République. Il est chauve, il a une grande moustache kirbique et des petites lunettes posées sur le nez. Et son dictionnaire, qui compile tout ce qui se dit à l'époque sur l'éducation, des articles de loi, des débats à l'Assemblée, définit les bases de l'école de la République qui resteront plus ou moins les mêmes, à peu de choses près, jusqu'en 1972.
Ce qui est intéressant, c'est dans le dictionnaire de Ferdinand Busson, il est quand même écrit, il y a bien de l'oral à l'école, c'est le dialogue pédagogique qui se définit comme le maître pose une question, l'enfant répond.
Vous vous rendez compte que c'est le seul dialogue valable à l'intérieur de la salle de classe ? Pas les élèves posent des questions, pas les élèves suggèrent des idées, pas les élèves tâtonnent ni débattent. Juste, le maître pose une question et l'élève répond. Comment on en est arrivé là ? Il faut remonter 4 siècles plus tôt, à la Renaissance. Jusque-là, c'était les religieux qui enseignaient.
Et tout se faisait à l'oral, et notamment en latin.
Et à la Renaissance, on entre dans une période de questionnement de fond sur la place de l'écrit. D'abord, il y a l'imprimerie qui arrive en France en 1470. Et puis il y a aussi le protestantisme qui arrive 50 ans après, et qui met la Bible, donc le livre, au cœur de sa pratique religieuse. Et puis enfin, il y a les jésuites. C'est quoi les jésuites ? C'est un ordre religieux qui naît à cette époque-là aussi. Mais surtout, ce sont les gens qui, au sein de l'Église, sont complètement focalisés sur l'instruction. Et ces jésuites, ils donnent une importance immense à l'écrit. Et vous croyez peut-être que ça ne vous concerne pas, mais si en fait. Parce que l'enseignement jésuite a irrigué toute l'éducation en France.
Les jésuites ont créé une école de contrôle. Il fallait contrôler les élèves, on les a contrôlés par les exercices écrits.
Et la seule parole qu'ils autorisent, c'est une parole contrainte.
Les jésuites, ils ont développé aussi la rhétorique. Qu'est-ce que c'est la rhétorique ? C'est j'écris un texte que je vais oraliser.
Il développe une parole qui ne fait que mimer l'écrit.
Bon, et puis il y a aussi le cours magistral. Alors, les jésuites, ils ont repris ce qui se passait à la religion, c'est-à-dire que le prêtre, le dimanche, il parlait à l'assemblée. Il était seul face à un auditoire central, un petit peu surélevé comme sur une estrade. Et à l'école de Jules Ferry, il y avait bien l'estrade, où il y avait le bureau et le maître. Qui parle à l'école, si ce n'est les profs ?
Donc dites-vous qu'à ce stade, pour les écoliers français de la Renaissance, prendre la parole devant les autres de manière libre et naturelle, c'est déjà pas simple. Mais ça va encore s'aggraver. Parce qu'à partir de la Révolution, l'idée germe qu'il faut éduquer le peuple. Avant, l'éducation, c'est un truc de noble, de riche ou de religieux. Permettre au peuple d'accéder à l'éducation, c'est le fondement de la démocratie. Mais pour devenir un corps politique, pour pouvoir débattre, c'est quoi la base ? C'est parler la même langue. Problème. Les gens en France parlent des patois différents. Il faut donc leur apprendre une langue commune. Évidemment, il faut du temps pour que ça se mette en place, tout ça. C'est ce qui nous amène au XIXe siècle et à la Troisième République de notre ami Ferdinand Buisson. Et c'est là que commence le vrai bras de fer entre l'écrit et l'oral. Pour inculquer le français aux petits écoliers de la Bretagne jusqu'à Nice, il faut faire taire les patois.
Si on laissait s'exprimer les enfants, les petits bretons dans les classes, par exemple, ils s'expriment en breton, hein. C'était leur langue. Donc surtout, il fallait pas qu'ils s'expriment en breton, puisqu'il fallait qu'ils apprennent le français. Et qui parle que français. Et c'est par l'écrit qu'on va unifier. Par A, B, C, D, l'apprentissage des lettres, l'apprentissage de l'écriture. Le système éducatif français s'est créé sur ce déséquilibre, sur cette tension.
Donc on arrive à la fin du XIXe siècle, avec un Jules Ferry et un Ferdinand Buisson, qui, pour faire aboutir le projet révolutionnaire, et dans la droite lignée des changements qui ont commencé à la Renaissance, vont rendre la prise de parole en classe hyper risquée. Ça, c'est ce que Robert Langlois appelle le statut de l'erreur.
Par exemple, les enfants français, alors ça se voit à l'écrit, là je ne parle pas de la parole, mais lorsqu'ils savent, ils ont peur de ne pas savoir, ils s'abstiennent, ils ne répondent pas. Les autres enfants, ils répondent. Dans tous les autres pays, ils répondent même s'ils ne savent pas. Le statut de l'erreur, se tromper, oh, j'ai raté, oh maîtresse, j'ai raté, je me suis trompée, eh ben, c'est une tare qui fige la confiance en soi, parce que il y a cette idée qu'il faut toujours réussir, et donc c'est dans la tête des parents. L'enfant, il n'est pas sûr, une fois qu'il a raté, il ne refait plus.
Ça vous rappelle des souvenirs ? Donc certes, le trac est universel. Penser au regard des autres fait partie de la condition humaine. Mais quand vous avez grandi en France, où l'on vous apprend à ne pas prendre la parole, ou que vous devez parler devant des Français qui pensent que votre parole ne vaut que si elle ressemble à du Victor Hugo déclamé, clairement, on comprend que votre trac s'aggrave. J'ai eu envie d'en parler avec quelqu'un qui n'est pas français, justement, mais qui est souvent confronté au regard des Français.
Je m'appelle Sébastien Marx et je suis un humoriste. C'est-à-dire, je monte sur scène et je raconte des blagues. Et je joue en français et en anglais.
J'ai retrouvé Sébastien dans un café à Montreuil avant qu'il monte sur scène. Il avait plein de choses à me dire sur les Français.
Une fois, j'étais dans la rue, je parlais avec un ami français, je parlais en français au téléphone. J'étais sur une place, je ne sais pas si c'était la place Tertre ou chose comme ça, et j'ai dit « titre », j'ai fait une faute, et quelqu'un juste à côté de moi, un piéton juste à côté, m'a corrigé.
Il t'a dit quoi exactement?
C'est une femme, elle a juste dit « c'est Tertre ». Mais même pas bonjour, hein, c'est juste, elle a entendu que j'ai fait une faute. C'était dans ses oreilles, c'était inadmissible. Elle a osé, elle avait le culot de corriger un étranger, évidemment un étranger, qui parlait au téléphone à quelqu'un d'autre d'une façon mal polie, parce que j'étais, dans ses yeux, impoli d'avoir un peu mal prononcé sa langue.
Je pense que c'est une question de politesse, vraiment.
Non. Non, je ne pense pas que c'est une question de politesse. Je pense que c'est une question de droit à l'erreur. Je pense qu'en France, j'étais prof de la langue anglaise à une école française, j'ai vu à quel point l'importance est mise sur l'écrit. C'est-à-dire qu'il y a des dictées qui sont très importantes apparemment en France, et c'est très maître qui récite des choses à des élèves, et les élèves doivent se taire et juste noter. Par rapport aux États-Unis, on met beaucoup plus d'importance sur un dialogue, et les élèves, ils ont souvent le droit, ils sont même poussés à se poser des questions et de faire des erreurs, de poser des questions bêtes. Et en France, j'ai l'impression que ça ne se fait pas. C'est-à-dire, si on ose poser une question, la maîtresse va dire, ou le maître va dire, non, il ne faut pas parler maintenant, après, ou si on fait une faute, c'est assez grave. Et en plus, la langue est tellement difficile que finalement, on va faire des bêtises avec cette langue. C'est tellement facile à faire des fautes. Si je dis « on » au lieu de « un », c'est notre mot. Et c'est notre mot, et les gens ne vont pas comprendre, et ils ne vont pas être sympas sur le fait qu'ils n'ont pas compris. Je trouve qu'ils vont dire, mais je n'ai pas compris. Et on te regarde comme si tu racontais la pire chose du monde. C'est vrai que je ne comprends rien. Parce que le problème aussi, c'est que si tu dis à quelqu'un un baguette au lieu d'une baguette, ils ne peuvent même pas faire l'effort de peut-être deviner. Mais ils vont faire croire que tu dis n'importe quoi. C'est dire un baguette, c'est le même. C'est exactement comme si tu disais blad de vœufs. Mais je trouve que oui, il y a moins d'acceptation de l'erreur, justement.
J'ai rien dit.
Non, tu vas plus me corriger.
Et est-ce que, je sais pas si tu fréquentes beaucoup d'autres expats américains en France, est-ce que c'est un truc dont, genre, vous parlez entre vous, genre, ces Français, ils sont trop méchants?
Oui, je dirais pas forcément méchants, mais qui jugent. En tant qu'humoriste aussi, ouais. On monte sur scène devant des publics français. Et en tant qu'Américain, on a souvent aux États-Unis des publics assez accueillants. C'est-à-dire, ils vont dans un comedy club parce qu'ils ont envie de rire. Et donc, ils sont partant sur un bon a priori. Ils disent, OK, là, on est dans un comedy club. La personne qui va monter sur scène est forcément drôle. On va rire. Mais aussi, c'est le lieu qui compte beaucoup. C'est-à-dire que là, c'est un club. C'est-à-dire qu'il y a des petites tables, tout le monde boit. Tandis qu'en France, c'est un théâtre. Donc, il y a une espèce de cadre très clair qui fait aussi, qui peut-être peut rappeler, maintenant que j'y pense, une salle de classe. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui parle et le public ne parle pas. Et en tant que stand-upper, souvent le stand-up marche très bien quand il y a une petite réaction, interaction entre les deux. Et du coup, des fois, c'est difficile. Je pose des questions dans le public français et ils n'osent pas répondre. Ou une personne et tout le monde le regarde. Et donc, c'est, oui, il y a cette appréhension. Dans un premier temps, ils ont un a priori négatif. Ils ont le bras croisé. Ils vont dire, OK, fais-moi rire. J'attends que l'humoriste soit sur scène. Je vais essayer un peu de rester dans ma coquille et juste... jusqu'à ce qu'il casse ma carapace et ah ok bon c'était pas mal, et donc on va recevoir des éloges comme ah c'est pas mal, tu vois, c'est le maximum qu'on peut espérer. Si un Français tu dis c'est pas mal, jackpot, ça va.
Au moins maintenant je serai hyper flattée si je lis c'est pas mal dans les commentaires iTunes. Et si vous me dites que vous avez trouvé ça extraordinaire, je saurai qu'on a des auditeurs élevés loin de Ferdinand Buisson dans la joie et l'enthousiasme. Mais surtout, je crois que ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle que j'ai eu le trac en fait. C'était ma manière de penser à vous qui m'écoutez. Et peut-être qu'après cet épisode, on essaiera de ne plus croiser les bras en allant dans un comedy club. D'accepter un peu mieux cette parole vivante qui se cherche, qui déraille et qui hésite. Et de se dire, tant pis si on trébuche, c'est notre réflexion en train de naître et de faire ses premiers pas. Et à chaque fois qu'on aura le trac, on pourra aussi se dire que c'est normal, que ça prouve que simplement, en fait, on n'est pas des hamsters. C'était Émotion, un podcast de Louis Média que vous pouvez vous empresser de suivre sur tous les réseaux sociaux, sur les comptes @émotionpodcast, émotion avec un S, sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour ne rater aucun épisode, retrouvez-nous là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, sur iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pourrez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires un peu partout pour nous dire si ça vous a plu, et n'hésitez pas à le recommander à vos proches. Les interviews ont été réalisées par Jeanne Boézek, Alice Boulot, Iris Wedraogo, Maureen Wilson et moi-même. Alice m'a aussi aidée dans les recherches. Jean-Baptiste Bonnet, Claire Cahu, Tristan Mazir, Bernard Nattier et Nicolas Vert ont assuré la réalisation, la création sonore, l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Nicolas Degélis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé le logo. Merci à Mélissa Bounoua et Charlotte Pudlowski pour la direction éditoriale et la production. Merci évidemment à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pourrez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com. Retrouvez Émotion un lundi sur deux. Et en attendant le prochain, s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter @apjzpty ou hello@louismedia.com. À très bientôt!
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler du film Rosalie, qui est actuellement au cinéma. Un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, qui présente le destin de Rosalie, une jeune femme qui se découvre et s'émancipe dans la France très puritaine de 1870. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Rosalie est une femme à barbe, un trait physique quelque peu particulier, surtout pour les mœurs de l'époque. On vit avec Rosalie sa quête d'amour et de liberté face à une société qui ne l'accepte pas à cause de sa différence. Le film réunit pour la première fois Nadia Tereskevitch et Benoît Maginel, tous les deux très touchants dans cette histoire d'amour complexe, mais très belle. Alors n'attendez plus pour aller voir Rosalie au cinéma dès maintenant et découvrir ce film qui célèbre l'acceptation de soi et des autres. Vous pouvez aussi découvrir l'interview de Nadia Tereskevitch, le personnage principal du film, dans notre dernier épisode de Pépite. À très vite.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.